Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Une affiche de rêve hier au Fouquet's. Les nommés au César 2019 étaient réunis pour le traditionnel déjeuner qui précède la cérémonie. Reportage dans un instant de Stéphane Boutsock et nous vous offrirons des places pour assister à la cérémonie des Césars le 22 février prochain. La première grande rétrospective consacrée à Victor Vasarely, le père de l'art optique, ouvrira ses portes mercredi au Centre Pompidou à Paris. Visite guidée en avant-première avec Sophie Orange. Vous pourrez aussi gagner des catalogues et des entrées de l'exposition. À la télévision ce soir, démarrage de la saison 7, pardonnez-moi, d'Engrenage, la série policière culte de Canal. C'est l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque et Laurent Marsic nous emmènera dans les coulisses de The Voice, de retour samedi soir sur TF1. Enfin, l'accordéon, c'est aussi de la musique classique. Charlotte Latour a rencontré Félicien Brut, l'un des virtuoses de l'instrument.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
La 44e cérémonie des Césars aura lieu le 22 février prochain avec RTL, partenaire de Canal+. Hier, à midi, comme le veut la tradition, le déjeuner des nommés réunissait celles et ceux qui concourront pour recevoir le précieux trophée sur la scène de la salle Pleyel. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Vous avez partagé la table des futurs lauréats.
À commencer, tiens, par celui qui est arrivé le premier, Kad Merad. Il sera le maître de cérémonie. Déjeuner studieux puisqu'il peaufine avec son complice Olivier Barou, entre autres, la grande soirée du 22.
Qu'est-ce que je fais là, là ? Là, je devrais être en train de faire le marché. Je devrais être en train de déjeuner chez moi, en famille, avec les enfants, tranquille, à surveiller les devoirs de lundi. Canal Football Club, des trucs comme ça, la vie, quoi. Il y a un problème ? Excusez-moi, c'est pas Sandrine Kiberlin là-bas. Pardon, monsieur. Ah, ça, c'est bon, ça. Non, moi, j'ai travaillé, je prépare, je travaille. Voilà, j'ai pas terminé. J'ai encore 2 semaines.
Et non, 18 jours exactement. Oui. Mystère pour l'instant sur le programme. On sait que des hommages à Charles Aznavour et Michel Legrand sont prévus. Ce qui est certain, c'est que l'un des grands favoris de ces Césars 2019 sera Gilles Lellouche. 10 nominations pour son film RTL Le Grand Bain. Et une en plus en tant que meilleur acteur pour le film Pupille. Ouais. Question, prend-il le temps, là, un petit peu, de savourer ses incroyables derniers mois?
Je commence simplement à avoir un peu le recul, ouais. En fait, vous savez, la sortie d'un film, c'est une telle lessiveuse et... Entre Cannes, la sortie de Pupille qui était assez proche de la sortie du Grand Bain, j'ai pas vraiment eu le temps de réaliser. Maintenant que je suis un peu en jachère, je réalise et ça fait du bien, ouais. Ouais, je suis très très heureux, je suis un peu stressé. Je vous avoue que j'y pense un peu tous les jours à cette histoire de César. Je me dis, oh là là, le pire n'étant pas de l'avoir, le pire étant d'avoir un discours.
Eh oui, le fameux discours du vainqueur. Temps de remerciement sur le papier limité, m'a dit Kad Merad, à 2 minutes 30, logiquement, hein, cette année. Mieux vaut un petit peu donc préparer les choses. Souvenir, tiens, de Virginie Efira, elle est nommée dans 2 catégories cette année. Meilleure actrice pour Un amour impossible et meilleur second rôle féminin, justement, pour Le Grand Bain.
Quand j'avais été nommée pour Victoria, j'avais préparé un petit texte. Je savais que je n'allais pas la voir parce que c'était Isabelle Huppert. Mais il y a eu ce moment à la fois drôle et pathétique avec Justine Triet, la réalisatrice de Victoria, où on s'est lu à 3h du matin nos discours, où je parlais pratiquement que d'elle. Donc évidemment, il y a, si tu vas avec ton petit texte et que tu ne l'as pas, tu as quand même de fortes chances de ne pas l'avoir. Tu as plus de chances de ne pas l'avoir que de l'avoir. Bon, bah, tu as ton petit texte, quoi. Alors, je ne sais pas encore. La tenue, nous sommes en recherche, hein, toute l'équipe, on est une 20aine de personnes sur l'affaire et on compte bien y arriver.
Nous sommes en recherche de tenue. Hein,
j'adore. L'idée, évidemment, est de ne pas avoir ni les mêmes créateurs, ni les mêmes modèles que les autres. Sandrine Kiberlin, citée dans la catégorie meilleure actrice pour Pupille de Jeannery, est-elle plutôt encore sous le coup de l'émotion?
J'étais très étonnée d'être nommée, je sais pas pourquoi. Toutes sont pour moi des filles que j'adore. Élodie, je la trouve à tomber par terre, Cécile, toujours... Virginie se dévoile de plus en plus, c'est carrément de mieux en mieux. Enfin, elle a toujours été top, mais encore mieux. Mélanie, dingue. Léa, enfin bon, toutes, quoi. Vous voyez le genre. Beaucoup de blondes.
Sandrine Kiberlin qui sera donc face à Virginie Efira, Élodie Bouchet, Cécile de France, Léa Drucker, Adèle Haenel et Mélanie Thierry. Autre catégorie avec un casting assez fou, second rôle féminin où l'on retrouve, pour Le Grand Bain, Leïla Bekhti.
Ah oui, quand même. Non, Isabelle Adjani, Karine Viard, Audrey Tautou, Virginie Efira. Sincèrement, je l'ai déjà eu mon César là. Je suis vraiment être assise et être heureuse pour beaucoup de gens parce que j'ai aimé beaucoup de films. Et en plus d'aimer leurs films, je les aime eux. Donc c'est génial.
Rendez-vous donc pour le verdict vendredi 22 février de 20h à 1h du matin en direct sur RTL en partenariat avec Canal+. Je serai en direct de notre studio Salle Playel avec les réactions des lauréats. Ici à Neuilly, Vincent Perrault, notre consultant césarisé et oscarisé Régis Varnier, mais aussi Benoît Galeret, l'homme des réseaux sociaux. Nous vous ferons donc vivre cette 44e nuit des Césars 2019.
Tout cela est luxueux. Dites-moi, il y avait l'air d'y avoir un très très bon climat.
Oui, très bonne ambiance, ouais, très sympathique, absolument.
Alors, très beau cadeau ce matin. Nous vous offrons deux invitations pour assister en VIP au César. Vous foulerez le tapis rouge, vous participerez au cocktail d'avant-soirée avant d'assister à la cérémonie au milieu des stars. Mais oui, tenue soirée de rigueur évidemment. Oui. Et pour gagner, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
Qui sera le maître de cérémonie de ces 44e César?
Nous sommes très gentils, comme d'habitude, et votre réponse est attendue au 32-10. Dans un instant, nous nous intéressons à Vasarely, rétrospective au Centre Pompidou, nous serons avec Sophie Orange.
Bonne journée avec RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Merci d'écouter RTL, il est 9h06. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
C'est l'un des événements de ce début d'année, une rétrospective Vasarely au Centre Pompidou à Paris. Cela fait 56 ans que l'artiste n'avait pas eu les honneurs d'un musée parisien.
Et vous allez en prendre forcément plein les yeux pour ce festival de couleurs, de noir et blanc, d'effets d'optique, d'œuvres monumentales. Une expérience sensorielle, parfois troublante, puisque les formes se déforme. L'un des intérêts de cette exposition, c'est de comprendre les premières inspirations de l'artiste. Vasarely, né en Hongrie en 1906, atteindra les sommets dans les années 60 et 70. C'est un élève du Bauhaus qui, dès les années 30, alors qu'il est encore graphiste publicitaire, introduit les illusions et les pièges de la vision dans ses tableaux comme ses zèbres en noir et blanc peints en 1938. Et vous découvrirez également des œuvres rarement, voire jamais montrées. C'est le cas de ces galets de Belle-Île, l'abstraction à partir du réel. Vasarely est allé à Belle-Île en 47-48, et il peint ensuite ses magnifiques formes. Et je vous propose, pour traverser ces 60 années de création, de retenir quelques mots clés.
Alors, on va donc commencer par le premier mot.
Exactement, le mot op art, art optique, inventé par la presse américaine dans les années 60, référence évidente au pop art. Oui. Vasarely commence par le noir et blanc avant de se consacrer à la couleur. L'op art, vu par Michel Gauthier, l'un des deux commissaires de cette exposition.
C'est quoi? C'est un art optique, un art qui excite la rétine, qui provoque des troubles visuels. Le nom de Vasarely est attaché à cette révolution optique au milieu des années 50 qui connaîtra un très grand succès une décennie plus tard. Ce sont des compositions plastiques qui suggèrent le mouvement avec lesquelles l'image n'est jamais fixe. On les regarde telle seconde, on voit telle chose, on le regarde trois secondes après, on voit autre chose, ça bouge. Tout ça est en relation aussi avec une conception de la matière et du monde qui l'hérite des découvertes scientifiques de son temps.
Vasarely qui réconcilie l'art et la science, le tableau vibre, clignote et scintille.
Un autre mot qui résume Vasarely, c'est populaire. C'est quelqu'un qui rêvait que l'art ne reste pas sur les cimaises des musées, mais entre dans la vie pour y introduire la beauté.
Et Vasarely assume à 100% de s'éloigner de la religion de l'objet unique pour un musée, pour des produits fabriqués à des milliers d'exemplaires. Vous verrez donc dans cette exposition des services de table, des posters tirés à 35 000 exemplaires, des mugs, des bouteilles de champagne. Dans les années 60-70, Victor Vasarely est partout, absolument partout. À la télévision, Barbara, Françoise Hardy ou Gilbert Bécaud chantent sur des plateaux signés Vasarely. Au cinéma, comme certains décors du film Erotissimo, réalisé en 1969 avec Jean-Yann et Annie Girardot. Vasarely illustre aussi les 95 livres de la collection Tell chez Gallimard de 76 à 85. Vasarely est choisi par David Bowie pour la couverture de son deuxième album Space Oddity. Et quand on demande au chanteur en voyage en France en 1977 « Qui souhaitez-vous rencontrer ?» il répond « Vasarely ». Et il se rend même dans son atelier. Vasarely est également choisi par la Deutsche Bank pour réaliser le décor de la salle à manger d'honneur. Elle existe encore. Moquette et mur couleur or, disque gris en métal ou plastique, référence sans doute aux pièces de monnaie. Elle a été déplacée le temps de l'exposition à Beaubourg. C'est vraiment l'un des clous de ce parcours. Vasarely, appelé par Renault pour dessiner le logo de la marque en 1972 au moment de la sortie de la mythique R5. 1985. Peu d'artistes ont été à ce point-là reconnus et adulés de leur vivant.
Alors, vous avez choisi le mot pop art, puis populaire. Et le troisième, c'est
alors,
quoi
alors? C'est Michel Gauthier qui va mettre fin au suspense.
Autre mot important, le mot cosmos. L'astronomie le passionne, comme des rêveries cosmiques, rêveries autour des pulsars, des quasars, des étoiles. Il donne souvent des noms astronomiques à ses œuvres. Il imagine un cosmos qui respire, un cosmos qui irradie, un cosmos déformé par la quatrième dimension. On vit une expérience très troublante face à ces tableaux qui apparaissent comme des grands écrans colorés. On est confronté à des bulles qui grossissent à la surface de tableaux, à des tableaux qui se creusent en profondeur, à des géométries très étonnantes, alors que bien évidemment, ça reste un tableau tout plat, des objets en deux dimensions uniquement.
Mais je vous assure que tout le monde se fait piéger. Je parie que les visiteurs comme moi vont s'approcher du tableau, le regarder de profil pour vérifier quand même s'ils le savent déjà, que le tableau n'est pas en relief. Exactement. Vasarely qui est allé dans le cosmos presque, puisqu'en 1982, l'astronaute Jean-Loup Chrétien va emmener plusieurs sérigraphies de l'artiste d'origine hongroise dans l'espace lors d'un vol franco-russe. L'une d'elles est présente, dédicacée en fin d'exposition. C'est vraiment la toute dernière pièce, surtout, ne la manquez pas. Une exposition d'une grande richesse qui va sûrement réhabiliter Vasarely, qui va permettre peut-être aux plus jeunes de découvrir son travail. Oui. Une rétrospective en tout cas qui fait la fierté de son petit-fils. Il est encore à Aix-en-Provence, à la Fondation Vasarely.
C'est une merveilleuse opportunité de redécouvrir l'œuvre de l'artiste consacrée de son vivant dans le monde entier. Je dirais que c'est un juste retour des choses. C'est une consécration que de pouvoir effectivement en 2019 eh bien, montrer en quoi cette création de Victor Vasarely dans son intégralité est tout à fait importante dans l'histoire de l'art. Beaucoup d'artistes aujourd'hui eh bien, se recommandent de son travail en indiquant qu'il avait 40 ans, 50 ans d'avance sur son époque.
Pierre Vasarely, hein, c'est son
prénom,
ouais, Pierre. Alors, et comme Vasarely fait un peu partie de l'histoire d'RTL, eh ben, une toute dernière question, Sophie, évidemment, qu'est devenue son œuvre monumentale qui a orné la merveilleuse façade de notre radio rue Bayard jusqu'à l'an dernier.
Œuvre réalisée avec son fils, les lamelles grises et noires ont été démontées lors du déménagement. Elles sont désormais dans des caisses à Aix-en-Provence, juste à côté de la Fondation Vasarely. Mais dans quelques semaines, je pourrais vous annoncer où elles vont réapparaître. C'est encore un petit peu tôt. Le projet est très avancé, mais pas encore conclu à 100%. Donc, bientôt, on reverra cet œil, ces ondes signées Vasarely. Vasarely, le partage des formes est donc à découvrir à partir de mercredi au Centre Pompidou à Paris. RTL vous offre ce matin plusieurs cadeaux.
Si vous répondez à la question suivante, dans quel pays est né Victor Vasarely? La réponse au 3210 et les gagnants recevront des catalogues et des entrées gratuites pour aller découvrir cette rétrospective. Nous vous l'avons dit, Sophie vous l'a dit deux fois dans sa chronique. La télévision maintenant, on commence avec les audiences et médiamétrie, audience du week-end. Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, vendredi, le rugby rafle tout. Près de 4 700 000 Français sont sur la 2 devant le grand concours de TF1 qui en rassemble seulement 3 300 000. Et c'est pire samedi, puisque là, c'est Cassandre qui est en tête et c'est mérité sur la 3 avec 4 500 000 amateurs des polars de la chaîne publique devant Taratata, 3 100 000 sur la 2 et Arthur, 3e sur la 1. Quant à hier, ben alors hier, en revanche, TF1 se refait une santé, si j'ose dire. 6 millions de personnes sont devant Radin sur TF1. 25% du public, devant Gone Girl sur la 2, près de 4 millions, oui. Et c'est devant Barnaby, pour une fois, sur la 3.
Alors, l'événement musical à la télévision cette semaine, c'est évidemment le retour de The Voice sur TF1, 8e saison, avec un jury en partie renouvelé, des candidats de 16 à 67 ans qu'on découvrira dès samedi soir dans les auditions à l'aveugle. Bonjour Laurent Marsic.
Bonjour.
Des candidats qui subissent un vrai parcours du combattant dans lequel vous avez embarqué en exclusivité votre micro.
À Vitry-sur-Seine, au sud de Paris, on est au mois d'octobre, l'an dernier. Le casting de The Voice se déroule en plusieurs étapes, s'étale sur 6 à 7 mois environ. Nous sommes ici à l'étape finale. Les candidats ont eu quelques semaines pour travailler avec un coach vocal, préparer leurs chansons, que vous verrez sur le plateau, assis sur des vieux canapés du studio, au mur usé par les notes, l'état-major de la production. Sur la scène, les musiciens de l'émission, c'est parti, pas simple de chanter avec des musiciens qu'on ne connaît pas, et inversement.
1, 2, 3. C'est-tu ce que tu as fait, ma mère?
Ok, il faut qu'elle parte en l'air. Hein. Ok, Jean-Philippe, tu peux l'accompagner là sur le début. Ok, c'est 1, 2, 3.
1, 2, 3.
Non, alors écoutez, je vais vous dire, c'est plutôt pas mal du tout. Juste, vous êtes tellement stressé que vous êtes devant, vous poussez. 1, 2, 3.
Qu'on entend, c'est Olivier Schultes, le chef d'orchestre et arrangeur musical de The Voice. Le voici donc à l'œuvre, et cette fois-ci avec une candidate qui tient à jouer de la clarinette avant de chanter.
On est au moment où les talents découvrent le groupe, découvrent le live avec nous, c'est-à-dire la version qu'on a préparée, et viennent répéter pour la première fois avec le groupe. On change beaucoup de choses, on adapte. J'entends aussi ce que eux pourraient me demander, leurs demandes. Si elles sont justifiées, je vais vraiment aller parce que je ne les connais pas encore. Donc si les demandes sont justifiées, on peut même tout changer complètement dans un arrangement. Après, ce qui est compliqué, c'est souvent le stress des gens qui arrivent devant nous peut leur faire perdre de vue certains basiques. Et là, c'est mon rôle de les remettre un petit peu dans la bonne énergie de travail. En fait.
Je trouve ça vraiment très bizarre d'entendre une clarinette et de vous voir chanter alors qu'au début, vous jouez de la clarinette. Par rapport à l'image qu'il va y avoir à la télé, ce sera un petit peu étonnant d'entendre une clarinette.
Moi, j'ai fait écouter aux gens et ils se rendent tellement pas compte qu'il y a une clarinette arrière dans ma version à moi, en fait.
Surtout que vous n'en avez pas vraiment besoin. Ou alors, donc jouer de la clarinette au milieu. Ok, merci beaucoup.
Merci. C'est ici, dit Pascal Guix, le producteur artistique, que la production sait ou pas si la saison sera bonne ou pas.
On commence à se faire une idée un peu précise de quel type de moment on va vivre sur le plateau. Le premier raisonnement qu'on a, c'est effectivement de se dire artistiquement, est-ce que c'est bien ? Une fois que c'est bien, stratégiquement, qu'est-ce qui peut les mettre en valeur ? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les coachs peuvent être amenés à se retourner ?
Alors, combien sont-ils à cette étape-là ? Et puis surtout, combien vont rester ? Ils sont 175, en resteront 120. Certains n'ont pas assez bossé et Olivier Schultes n'y va pas par quatre chemins.
Là, tu me poses le refrain et après, tu peux partir.
Moi, je vais vous dire, vous êtes super doué, mais pour moi, vous n'avez pas assez bossé.
Voilà, retourne travailler. 10-15 minutes de répétition par candidat qui ne repartent pas les mains vides.
Allez, on y retourne une dernière fois, souffler un bon coup. 1, 2...
Tu sais, ce soir j'ai vu dans mon corps lâcher.
Tout cet enregistrement-là, ils vont l'avoir avec eux, retravailler à la maison et puis revenir. On saura vendredi samedi soir si les voix que vous avez entendues ont été sélectionnées ou pas pour cette 8e saison.
Alors, ça, c'est donc samedi soir. Merci Laurent Marsic. On en revient à nos programmes télévisés de ce soir avec Isabelle Morini-Bosque et on note la seconde partie des portraits des agriculteurs dans L'amour et dans le pré sur M6.
Oui, cet agriculteur que vous allez encore aimer tellement eux ont envie de l'être. C'est donc sur M6, on en reparle lundi prochain.
Côté fiction, on note sur TF1 la suite de Sam, cette prof forte tête.
Forte tête à la limite du déjanté, j'aime beaucoup, même si dans cette saison, on n'évite pas toujours la caricature. 21h TF1.
Mais l'événement télé du jour, c'est le démarrage de la 7e saison, je dis bien 7e, d'Engrenage sur Canal+.
Absolument, et pour une fois, tous les critiques sont d'accord, moi inclus, c'est une série prodigieuse qui n'a jamais baissé, ni en intensité, ni en qualité depuis sa création en 2005. En ce début de saison 7, 14 ans, on retrouve donc les flics de la 2e DPJ et les magistrats avec qui ils sont en contact, notamment le très incorruptible juge Roban qu'on veut mettre à la retraite, avec aussi l'avocate Joséphine Carlson, Audrey Fleureau, et sa morale à géométrie extrêmement variable. Elle est là incarcérée pour tentative de meurtre. Oui. Sans oublier, bien sûr, le commandant Laure Berthaud, incarné par la frémissante Caroline Proust, très, très enceinte à la fin de la saison 6. Justement, qu'elle résume, Caroline Proust.
Il faut que je fasse tout votre boulot, en fait, c'est ça. Alors, la fin de la saison 6, eh bien, Laure Berthaud s'en va en abandonnant son enfant dans l'hôpital. Elle ne peut pas rentrer dans la chambre avec le petit bras qui se tend vers elle. Et elle part en pleurant, ne sachant qui lui arrive. Le pitch de la saison 7, comme toujours pour Engrenage, on va commencer par un cadavre très particulier qui va nécessiter à Laure Berthaud, hospitalisée pour dépression, de sortir de son établissement pour pouvoir enquêter.
Ben oui, puisque le cadavre très particulier, c'est le patron, justement, de la DPJ. Voici le moment où elle veut reprendre le travail et va voir Gilou, Thierry Godard, son Gilou, pas convaincu de la nécessité de ce retour.
C'est un nouveau bureau ?
Ouais.
Et donc, ils sont pas foutus de ta gueule.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Tu veux réintégrer le groupe ?
T'as pas demandé ta mutation ?
Si, mais elle a été suspendue à cause de mon arrêt maladie.
T'es plus en arrêt ?
Bah non, tu vois, j'ai vu le médecin et il est d'accord pour que je reprenne. Franchement, je me sens d'attaque.
Tu sais, ça a été compliqué pour moi de tourner la page, hein. Mais là, je commence un peu à y arriver. Mais voilà. Tu reviens de travailler là maintenant avec nous.
Et si on lui avait dit à Caroline Pose qu'elle sera encore là 14 ans plus tard, elle qui aime pas s'engager, l'aurait-elle cru?
Non, non, je serais jamais venue. Je n'aurais absolument pas pu. Non, je n'aime pas trop le fonctionnariat. Et dans mon approche dans le jeu et dans ma approche de vie, en fait, il y a le vertige qui m'intéresse, en fait. Bon, c'est un certain vertige, on pourrait dire, de faire pendant 14 ans une série, mais si on le sait à l'avance, c'est pas vertigineux, en fait. Ce qui est intéressant, voilà, dans la vie, pour moi, c'est le vertige.
Et non, moi, c'est son but, vous êtes obligé d'être là.
Je ne sais pas. Il faut voir.
Oui, bon, c'est quasiment tout vu. C'était d'autant plus risqué qu'est arrivée une nouvelle scénariste, Marine Francou, qui connaissait moins la psychologie des personnages que les acteurs eux-mêmes, forcément, au bout de 14 ans. Oui. Ils ont été vite rassurés par le travail de cette pro qui s'était notamment illustrée auparavant sur Le Village français, comme d'ailleurs Thierry Godard, alias Gilou, qui, lui aussi, n'aurait peut-être pas dit oui à l'idée de s'embarquer pour 14 ans.
C'est possible que je ne sois pas venu. Tu sais, entre Le Village français et puis ça, bah avec le recul, c'est chouette. Je suis étonné de saison en saison. On avait fait le pilote. Après le pilote, on a fait la première saison. On disait, waouh, on fait une première saison. Quand on a fait la deuxième, on dit, ah, tu te rends compte, c'est la deuxième saison. Tu vois, et puis après, on a la septième, on sait plus quoi dire. Non, c'est chouette.
Bah si, il dit qu'il sera sur la huitième. Caroline, comme oui. Caroline Proust, il est l'idole des Anglais qui raffole de cette série diffusée sur la BBC et dans 70 autres pays. On en reparlera lundi prochain parce que franchement, la série le vaut bien.
Avec grand plaisir. Dans un instant, Charlotte Latour et son fameux accordéon à bretelles.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Alors non, l'accordéon n'est pas ringard. Charlotte Latour nous le prouve ce matin. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Vous avez rencontré Félicien Brut, c'est un accordéoniste dont l'album Le Paris des bretelles vous a séduite.
Félicien Brut traverse les frontières avec lui, musette et classique ne font plus qu'un. Son album Le Paris des bretelles est un joyeux mélange où l'accordéon est entouré d'une contrebasse et d'un quatuor à cordes, le jeune quatuor Hermès. Sur cette création contemporaine de Thibaut Perrine, dont le premier mouvement rappelle, on l'entend, le Paso Doble espagnol. Alors d'où vient ce Félicien Brut? Eh bien, il est originaire d'Auvergne, et petit, il allait danser avec ses parents dans les bals où la musique traditionnelle régnait en maître. À 6 ans, il s'est donc mis à l'accordéon, a commencé par interpréter un répertoire populaire, avant de s'orienter, à 20 ans, vers la musique classique.
L'accordéon est très présent en musique classique, il est présent en jazz, il est présent dans la chanson, mais on perd un peu l'empreinte musette qui a été beaucoup décriée, considérée comme ringard. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été servi. On s'est dit qu'il y avait un répertoire fabuleux du début du siècle, que c'était peut-être l'occasion de le faire redécouvrir en l'amenant justement dans le secteur de la musique classique.
Classique, le folklore n'est jamais loin. Béla Bartok l'a montré en s'inspirant de thèmes hongrois. Et ici, Prokofiev également, avec son ouverture sur des thèmes juifs qu'on retrouve sur l'album. L'accordéon imite presque la clarinette, hein, on l'entend. Et à propos de folklore et de tradition, savez-vous, Yves, d'où vient l'accordéon?
J'ai envie de vous répondre en France, mais ça me semble un peu trop facile comme réponse. Un autre pays d'Europe?
Et absolument. L'histoire est passionnante, écoutez bien.
Il a été inventé en Autriche. Ensuite, très vite, il a été fabriqué en Italie. Et ce qui le caractérise en France, c'est effectivement ce répertoire musette. Il naît un petit peu avant la Première Guerre mondiale et surtout après la Première Guerre mondiale, de deux phénomènes, des vagues d'immigration extrêmement importantes à l'époque. Donc il faut imaginer qu'à l'époque, les Espagnols, des Portugais, des Sud-Américains, des gens de l'Europe de l'Est, d'Amérique du Nord, arrivent à Paris. Dans le même temps, un phénomène d'exode rural, avec des habitants des provinces qui viennent travailler ici à la capitale, dans le secteur industriel. Et entre autres les Auvergnats qui arrivent avec une petite cornemuse qu'on appelle la musette à l'époque. Et donc ce petit monde va se retrouver le dimanche sur les bords de Marne, et ils vont faire de la musique ensemble, et c'est pour ça que dans le musette on retrouve ces influences très diverses, avec la polka et la mazurka qui arrivent d'Europe de l'Est, la tarentelle qui vient d'Italie, le foxtrot qui arrive des États-Unis, etc.
Un Un Américain à Paris, on croirait entendre tout un orchestre. Oui. La contrebasse assure l'assise idéale pour que les violons, alto et violoncelle se répondent et dialoguent en parfaite symbiose avec l'accordéon. Leurs sons finissent même parfois par se mélanger.
Par moment, on ne sait pas si on entend le violon, si on entend l'accordéon. Par exemple, le timbre de la main droite de l'accordéon et le timbre du violon ont une capacité à se fondre qui est assez incroyable. Et de même avec la main gauche de l'accordéon et le violoncelle. À la main gauche, nous, à l'accordéon, on a nos graves et qui se fondent très bien avec le violoncelle.
Brut en digne héritier de Richard Galliano reprend la petite suite française composée par le maestro Canois. Avec ses arrangements classiques, Félicien Brut produit une musique authentique, harmonieuse, à l'agilité rythmique vraiment entraînante, un jeu tout en souplesse, quel virtuose. Hein. Franchement, avec lui, l'accordéon a l'air tellement simple. Pas étonnant qu'il enseigne et qu'il ait remporté les trois plus grands concours internationaux d'accordéon. Félicien Brut aux côtés du quatuor Hermès et Édouard Macarez à la contrebasse. Ils sont en concert ce soir au Théâtre Marigny à Paris. L'album Le Paris des Bretelles est paru chez Mirare.
C'est une magnifique ambiance hein, sur cet album. Merci beaucoup Charlotte Latour. On a passé une belle balade, comme vient de dire Stéphane Boutsock. Dans quelques instants, nous allons nous séparer, non sans vous avoir offert des cadeaux Vasarely et vos invitations pour assister en VIP à la cérémonie des Césars le 22 février.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Nous vous offrons donc deux invitations pour assister à la soirée des Césars en VIP. Vous foulerez le tapis rouge, vous participerez au cocktail d'avant-soirée avant d'assister à la cérémonie au milieu des stars. Mais pour cela, il fallait répondre à la question que vous posez Stéphane, qui sera le maître de cérémonie de cette 44e saison des Césars.
C'est Canmerade.
Eh bien voilà, vous êtes très très gâté, hein, oui. Je le signale. Il faudra quand même louer votre smoking, éventuellement même, votre robe de soirée.
Et la robe longue.
Voilà. Si vous me permettez, monsieur Calvi, je rajoute à ça pour les auditeurs, vous savez qu'Hervé Pouchol tiendra le stand des merguez à l'entrée.
Ah, c'est bien. Ah oui, un sandwich merguez.
Vous aurez un ticket qui vous sera envoyé. Vous pourrez venir prendre un sandwich merguez de la part de notre émission. Ça fait partie du package.
Offert par Hervé Pouchol. Et une sangria, mais avec modération.
Voilà, effectivement.
Vous écoutez RTL.